RCF.
Parti de Montpellier le lendemain du 15 août 2015, Antoine, Géraldine et leurs trois enfants ont fait le tour du monde en 12 mois et demi, en traversant 25 pays et en parcourant 12 600 km à vélo. De retour depuis fin août 2016, ils nous témoignent dans l'inattendu de Dieu de leur aventure au cours de deux émissions consécutives que nous allons partager ensemble. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils retirent de leur expérience de ce parcours à vélo, ils répondent tout simplement la confirmation que la Terre est belle et qu'elle mérite bien toute notre attention. L'important, c'est de vivre à fond et de réaliser nos rêves ou d'essayer de ne pas regretter de n'avoir pas osé. La satisfaction d'avoir ouvert les yeux également de leurs enfants âgés de 11 ans, 9 ans et 6 ans au moment du départ sur leurs propres possibilités et également sur leur générosité, la générosité également des habitants de notre planète, le renforcement de notre foi en Dieu, en l'homme, une meilleure compréhension, une meilleure connaissance d'eux-mêmes, le plaisir d'accompagner leurs enfants dans leur apprentissage et de faire découvrir la lecture à leur dernière fille. Je vous propose d'écouter leur témoignage et tout d'abord Géraldine qui nous parle « Pourquoi une autre réalité ?»
Alors pourquoi on a choisi ce titre ? Parce qu'en fait depuis qu'on est rentré, tout le monde nous dit « Alors pas trop dur de revenir à la réalité ?» Pas trop dur de revenir dans la vraie vie. Alors, nous, on trouve que c'est un peu étrange de nous poser cette question, parce que oui, effectivement, il y a une vie quotidienne ici, mais ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est aussi une réalité, c'est aussi la vraie vie, et c'est presque plus la vraie vie que ce qu'on vit parfois, nous, quotidiennement.
Donc, notre objectif, c'est que vous repartiez avec des belles images dans la tête. Que vous puissiez ressentir un petit peu ce que nous on a vécu au fil de ce périple et comme nous, que vous puissiez trouver que la Terre elle est vraiment belle et que ses habitants sont assez fabuleux. L'idée pour nous c'est aussi de montrer que monsieur et madame tout le monde et leurs enfants ils peuvent faire des choses qui sortent du quotidien, qui sortent de l'ordinaire et que c'est en fait réaliser ses rêves. Et si en plus c'est faire un voyage à vélo, c'est assez accessible. Et donc voilà, faut pas hésiter. À un moment donné, on passe le pas, c'est le moment le plus dur. Puis après, tout s'enchaîne.
Merci à Géraldine et Antoine pour cette brève introduction, l'occasion de présenter cette autre réalité. Parcourons maintenant leur trajet à travers cette émission, l'occasion de nous introduire justement à ce trajet en vélo avec leurs jeunes enfants, et bien se présenter avec différents angles de vue, vous le verrez, et présenter ainsi leur voyage. Alors, qui, comment et pourquoi ? La réponse de Géraldine et Antoine.
Il y a un an, on avait 39, 37, 11, 9 et 6 ans. Famille ordinaire qui avait l'habitude de voyager à vélo un peu, on aimait bien ça, on faisait des sorties pendant les vacances sur quelques jours et on avait une petite idée en tête et on avait décidé de la mettre en œuvre. Du 17 août au 27 août 2016, donc c'est tout frais, on vous raconte pas une histoire d'il y a 15 ans, on est rentré fin août, pile poil pour la rentrée scolaire et ça dure un peu plus d'un an où on était sur les routes. Quoi ? Bah, c'est un voyage en vélo, un voyage en famille.
Un voyage à la force démolée, mais parfois ça suffisait pas toujours.
Ouais, effectivement. Et un voyage en autonomie. Donc en fait, dans les sacoches qu'on a eues sur les vélos tout à l'heure, on avait tout le matériel nécessaire pour bivouaquer, faire la cuisine, se soigner si nécessaire, écrire, apprendre, se détendre, prendre des photos, voilà, lire.
Et rencontrer des gens.
Voilà, ça c'est le choix du vélo. On n'est pas des fans du Tour de France. On ne passe pas nos journées au mois de juillet à regarder les étapes du Tour de France. On fait pas beaucoup non plus de VTT. On n'utilise pas le vélo comme un outil sportif en tant que tel. On est plus des utilisateurs de vélo parce qu'on trouve que c'est un super moyen de locomotion. Et qu'en l'occurrence, pour voyager, c'est le meilleur moyen de transport qui existe. Parce que c'est pas trop cher, parce que c'est facile à réparer. Et parce que ça permet de rencontrer les gens facilement, on est accessible, il n'y a pas de barrière. Combien ? Ça, c'est la bonne question. Il y a plein de personnes qui nous posent la question ou qui n'osent pas nous poser la question. On sent, ils hésitent. Est-ce que je pose la question ? Je ne pose pas la question. Combien ça coûte ? Bah ouais, il faut un peu casser la tirelire, quand même. Les enfants, ils ont cassé leur tirelire. pour pouvoir s'offrir des choses pendant le voyage. Et nous, on a cassé la tirelire aussi. C'est un projet qu'on avait en tête depuis un bon bout de temps, pour être très clair. Quand on s'est marié, on s'est dit, si un jour on a des enfants, on fera un break dans notre vie pour aller les promener autour de la planète parce qu'on pense que ce sera une bonne chose à leur offrir. Donc voilà, on s'est marié il y a 14 maintenant.
Je sais pas.
Bah, il y a longtemps, pas trop, mais un peu. Et donc on avait mis de l'argent de côté au fur et à mesure pour préparer ce voyage. Il se trouve aussi qu'on a eu la chance d'avoir une rentrée d'argent conséquente juste avant de partir. Alors ça a un côté positif, c'est qu'on ne s'est pas trop posé de questions après pour le budget. Le côté négatif, c'est qu'on ne s'est pas trop posé de questions pour le budget. Et que donc on n'a pas trop surveillé les dépenses non plus pendant le voyage. Et récemment, on a fait les comptes et on s'est rendu compte qu'on avait dépensé un peu plus que ce qu'on avait imaginé. Mais en gros, c'est une centaine d'euros par jour pour la famille, c'est-à-dire 20 euros par jour et par personne. Ça comprend à peu près tout. Ça comprend pas quelques gros extras qu'on a dépensés quand notamment on a accueilli de la famille, qu'on a loué une maison en Thaïlande ou des choses comme ça. Mais pour un voyage classique, supportable, acceptable, intéressant, amusant, ça nous a coûté une centaine d'euros par jour et par personne. Pourquoi, Géraldine ?
Ça, c'est la vraie bonne question. Alors pourquoi ? Ah ben d'abord, c'était pour vivre notre rêve. Ça, c'était la première chose. De manière simple, libre et lente. Ça, c'était vraiment important. Lente pour avoir du temps pour nous, du temps pour notre famille. L'objectif aussi, c'était de pouvoir montrer à nos enfants la beauté du monde. La beauté du monde et la beauté de ses habitants. Partager aussi des moments, des bouts de vie avec tous ceux que l'on va croiser sur notre route ou tous ceux qu'on avait l'intention de croiser, qu'on souhaitait rencontrer. Et aussi pour se laisser surprendre. Beaucoup de surprises pendant ce voyage. Puisqu'on avait le temps, on était ouvert, on était disponible, prêt à accepter tout ce qui allait se présenter devant nos roues.
Comme de monter sur un chameau au fin fond de la Mongolie, et plein d'autres encore. Où ?
Voilà. On est parti de chez nous, ça c'était important. Donc on a fermé la porte, on a laissé les clés à un voisin, et on a quitté notre chez nous en vélo. Objectif, Istanbul.
Grosso modo, cette partie-là, ça a duré 3 mois et demi, et c'était à peu près 3500 km à vélo. Donc on est parti de Montpellier, photo de départ, place de la Comédie.
Bien accompagné.
Ensuite, on est parti sur les routes de France, en direction de l'Est. On a traversé l'Italie, on a visité Pise, on est passé à travers la Toscane, on a traversé les Apennins, on a été visiter Venise.
Une incursion en Bosnie-Herzégovine à Mostar. Et puis retour sur la Croatie, là c'est Dubrovnik. Et on continue. On s'éloigne et on arrive donc au Monténégro, donc là, près des boucles de Kotor. Puis on passe en Albanie. Donc là, c'est l'Albanie toujours, en automne. On traverse le Kosovo. Donc là, c'est une image assez intéressante où dans un même jardin, il y a une mosquée et une église. La Macédoine. Capitale, là, Skopje, et puis arriver sur la côte grecque, où on profite encore des belles journées. Et enfin, Istanbul, la Turquie, le souk, la mosquée des Omayyades, le détroit du Bosphore.
Si vous venez d'arriver sur RCF Maglonero, nous écoutons le témoignage d'Antoine, Géraldine et leurs 3 enfants partis faire le tour du monde à vélo en 12 mois et demi, en traversant 25 pays, en parcourant plus de 12 500 km, et tout ceci à vélo. Nous continuons leur parcours, leur trajet, avec cette étape du côté de la Turquie il y a quelques instants, et autre étape, celle de Dubaï.
Après, on a fait un petit saut en avion, on a fait un stop à Dubaï, je suis obligé de vous le dire, parce que sinon Joseph, il dit tout le temps, et on s'est arrêté à Dubaï. Donc, tu peux le dire, on s'est arrêté où ?
À Dubaï.
Voilà, c'était, on avait l'occasion de faire un stop, on a voulu voir ce que c'était que cette ville. En l'occurrence, si vous voulez savoir ce qu'on en a pensé, vous pouvez aller sur le blog, on a fait un petit article dessus. On en pense que c'est intéressant à voir, mais que c'est franchement déconnant. Puis, on a continué le périple en avion, donc on voit qu'on a fait un grand saut en avion jusqu'en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, on est allé au sud de la Thaïlande, et du sud de la Thaïlande, on a remonté l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, donc Thaïlande, plage paradisiaque, des cocos, des fruits, beaucoup de... Ben, voilà, super, pays extra, climat extra.
Les vacances dans les vacances.
Visite de temples, dépaysement assuré. On est passé au Cambodge, donc on a visité les temples d'Angkor. Là aussi, c'est impressionnant. Et c'était aussi, on aura l'occasion d'en reparler, mais autant d'occasions d'apprentissage pour les enfants et pour nous. On découvre voilà, des animaux nouveaux, des buffles. On remonte le Mekong au Laos. On découvre une végétation, une nature luxuriante. Toujours, on baigne dans cette culture bouddhiste. Et puis on continue le périple, du Laos on pique à l'est et on va entrer en Chine par l'extrême sud de la Chine. Donc nord du Laos, les moines bouddhistes qui font l'aumône le matin.
Au Vietnam, donc une femme dans les rizières, c'est souvent les femmes dans les rizières, dans la gadoue, souvent pieds nus d'ailleurs. Et là on arrive donc en Chine, dans la zone de Yangshu, où on retrouve finalement un peu cet esprit Bédalong mais sur terre. Là, on prend le train jusqu'à Pékin, parce que la Chine est bien trop vaste et le visa bien trop court pour pouvoir la traverser en vélo.
En Chine, alors c'est vrai, on a oublié de dire un peu les temps et les distances, mais grosso modo, Thaïlande, Cambodge, Laos, on a passé à chaque fois à peu près un mois et on a fait à peu près 1000 km dans chaque pays. Au Vietnam, on a passé 15 jours, on a fait 500 km. Et dans le sud de la Chine, on a passé 3 semaines et on a fait un peu plus de 1000 km. Et après, on est allé sur Pékin.
Donc la visite de Pékin, la place Tiananmen.
Avec la cité interdite derrière.
La Grande Muraille.
Of course. Mao disait qu'on n'était pas vraiment un homme si on n'était pas monté sur la Grande Muraille. Je suis désolé pour bon nombre d'entre vous.
Pour nous, c'est fait. Hein.
Pour nous, c'est fait.
Et puis ensuite, on a repris le train pour aller jusqu'à Oulan-Bator, en Mongolie. Donc c'est le transmongolien
qui traverse
le désert de Gobi. Arrivé à Oulan-Bator. Et donc à Oulan-Bator, on a fait une petite boucle au départ d'Oulan-Bator vers l'est. Donc voilà, les grandes étendues de la Mongolie, sous la neige.
On était arrivé un peu tôt. En Mongolie, le climat n'était pas encore complètement
au printemps
adapté au cyclotouriste.
On s'est offert une petite semaine de cheval, tous en famille, tous ensemble.
La petite semaine de cheval nous a coûté le coût de 2 mois d'un voyage classique. Ensuite, on continue, on a repris le train qui nous a amené vers la frontière russe en Russie. Sur la partie asiatique, on a circulé sur la Bouriatie et le sud de la Sibérie en contournant le lac Baïkal par le sud jusqu'à Irkoutsk. Donc quand on arrive en Russie, si on ne sait pas qu'on est en Russie, il suffit de regarder les statues. Il y en a partout et c'est à peu près toujours les mêmes en fait, c'est pas beaucoup d'originalité. On voit des paysages magnifiques sur le lac Baïkal. C'est coup de cœur aussi, le lac Baïkal, ça c'est wow, impressionnant.
J'ai entendu dire que c'était la baignoire de Dieu.
La baignoire de Dieu, ouais. Pas mal, bien choisi.
Il a bien choisi. Hein. Et donc ensuite, on a pris le transsibérien pour traverser du coup toute la Russie. Et on a fait une pause à Moscou. Donc la place rouge, je ne sais plus le nom de la...
Basilique du Bienheureux.
La basilique du Bienheureux. À Saint-Pétersbourg également avec les canaux. Et puis ensuite, on est revenu sur l'Europe de l'euro, on va dire, en partie en arrivant sur la Finlande. Donc là, on découvre les beaux étangs, belles zones de lacs, en fait, qui sont sur, sur le, la Finlande, Helsinki, voilà, les petites maisons en bord de mer. Et puis ensuite, on arrive sur les pays baltes. Donc là, c'est après le ferry, donc on arrive à Tallinn. Les tourbières.
Là encore, les pays baltes, c'est des pays... Enfin, nous, on a bien évidemment découvert, et c'est des pays qui sont absolument magnifiques. La nature est superbe. Et il y a pas mal d'aménagements pour les voyageurs. Donc ça, c'est top.
Là, c'était en Lettonie, un château fort, château moyenâgeux, à Riga, dans la capitale lettonne. Et puis là, c'est la Lituanie, avec ses grandes étendues de dunes et
le
de
long
plages.
De la Baltique. Ensuite, on a repris un ferry pour traverser la Baltique pour nous amener au sud de la Suède. Au sud de la Suède, où on a repris nos vélos et on a donc circulé sur l'extrême sud de la Suède, le Danemark, Copenhague, et on est redescendu de Copenhague jusqu'en Allemagne, à Hambourg. Une nature superbe, plein d'énergie renouvelable. Moi, j'ai adoré. C'était un bon cours d'histoire des énergies renouvelables, le Danemark, le nord de l'Allemagne. Ceux qui n'aiment pas les éoliennes, n'allez pas là-bas. Vous allez avoir des boutons. Toujours des paysages magnifiques. Et on a encore bien profité de la mer. On est allé voir la petite sirène à Copenhague. On pouvait pas... Le port de Copenhague. Ensuite, ça, c'est à Lübeck, au nord de l'Allemagne. On a repris un petit train pour passer de Hambourg jusqu'à Freiburg parce qu'il y avait la montre qui commençait à tourner, là. Et il fallait quand même qu'on arrive à temps pour la rentrée scolaire. Et de Freiburg, on a repris les vélos pour terminer le périple en France. Là, on a longé le Rhin, puis le Doubs, puis la Saône, puis le Rhône. Puis après, on est rentré à la maison. Voilà, ça c'est le pour vous donner une idée du Grand Tour. Et tout ça, donc ça a pris un peu plus de 12 mois. On a fait 12 600 km en vélo. On n'a pas eu de gros pépins techniques, voilà. Vous vous dites, c'est bien. Mais on a vu plein de beaux paysages, on a vu plein de monuments historiques célèbres, mais on n'a pas beaucoup vu les vélos, on n'a pas beaucoup vu les rencontres, on n'a pas beaucoup vu des choses inattendues. Et l'idée pour nous, voilà, c'était de passer le message que c'est, voilà, toutes ces photos, tous ces lieux, on aurait pu ramener les mêmes photos en enchaînant des voyages touristiques classiques, tout organisé, planifié à l'avance. C'est que des lieux qui sont accessibles à tout le monde, en véhicule, en bus, à peu près partout. Mais nous, ce n'est pas forcément les souvenirs les plus forts qu'on va garder de ce voyage. Et c'est là où on veut en venir et rentrer dans le vif du sujet. C'est là où il y a le vélo qui rentre en ligne de compte et qui permet de sortir des sentiers touristiques et des grands pôles de tourisme de chaque pays traversé. Et c'est là où l'envie d'aller rencontrer les gens donne une dimension... supplémentaire au voyage. Donc on regrette pas du tout d'avoir vu tous ces paysages, d'avoir vu tous ces monuments. Ça aurait été dommage de passer à côté et de pas profiter de ça, voir ça, mais c'est pas l'essentiel de notre voyage.
Donc en fait, l'autre réalité, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant, et notamment une partie de préparation.
C'est toujours l'inattendu de Dieu. Dans ce rendez-vous cette semaine, nous écoutons le témoignage de Antoine et Géraldine, tous deux parents de trois enfants qui ont fait le tour du monde. C'était le lendemain du 15 août 2015, parti plus de un an, 12 mois et demi, en vélo, parcourant 12 600 km et traversé plus de 25 pays. Il nous raconte voilà, comment ce projet est né, leur trajet également, et puis leur point de vue avec le recul nécessaire pour nous présenter leur voyage. Après nous avoir présenté justement leur trajet qu'ils ont vécu pendant ces un an et demi, eh bien, tout commence par la préparation à un tel projet. Comment cela s'est passé? Eh bien, la réponse dès maintenant avec de nouveau Antoine et Géraldine.
Alors, vous êtes beaucoup à vous dire, mais ça prend beaucoup de temps pour préparer un tel voyage. Combien de temps ça vous a pris? Au moins un an? Ben, en fait, non, pas tant que ça. On s'y est mis à Noël 2014 pour partir donc en août 2015. Alors oui, il y a des choses que l'on a préparées, bien sûr. Et on les a préparées avant, mais aussi tout au long du périple. En réalité, à chaque grande étape, finalement, on préparait la suite. On prenait le temps pour préparer la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a préparé? Voilà, c'était Antoine devant l'ordinateur, c'est ça, hein,
ouais,
qui a préparé une bonne partie des trajets, notamment.
En fait, l'idée, c'était de préparer le voyage, mais pas trop. L'idée, c'était de le préparer suffisamment pour anticiper un peu, bah, par exemple, les conditions climatiques dans lesquelles on allait arriver. Donc, typiquement, s'équiper quand on arrive en Mongolie parce qu'on sait qu'il va faire froid. C'est le préparer suffisamment pour anticiper un peu les dénivelés, la route. Voilà, ça permet notamment, là on a cette photo où on est en haut des Bouches de Kotor au Monténégro. On a tous le sourire parce qu'on vient tous de finir, ou on n'est pas loin de finir, 900 mètres de dénivelé avec 25 lacets sur un coteau. Et on monte et on monte et on monte, et on a passé toute la journée à monter ces lacets. Et donc, bah voilà, le fait de préparer un peu, ça permet d'anticiper et de dire notamment aux enfants, demain, ça va être sportif. Donc comme ça, quand on attaque la côte, on sait à quoi s'attendre, c'est un peu plus facile. Préparer aussi, c'est se préparer aux us et coutumes locales, et c'est préparer un peu les estomacs. Bon, alors, on n'a pas été jusque-là.
Hein. On l'a laissé aux
locaux. Mais c'est vrai que voilà, c'était important aussi de préparer un peu pour savoir où on allait, à quoi s'attendre un petit peu. Mais de préparer pas trop, et c'est ça l'essentiel, pour qu'il y ait quand même une énorme dose d'imprévu dans le voyage. Parce que si on prépare tout, alors on n'est plus accessible, on n'a plus le temps de s'ouvrir à ce qui va se présenter devant nous. Le but du voyage, c'était vraiment de laisser du temps et des possibilités à l'imprévu d'arriver. Donc il y avait de l'imprévu prévu.
Alors l'imprévu prévu, c'était que le matin, quand on se réveillait, on ne savait jamais où est-ce qu'on allait dormir le soir. Donc ça, ça faisait partie de notre mode de fonctionnement, de notre mode de voyage. C'est-à-dire que, voilà, on se levait le matin, et en fonction de ce qui allait se présenter à nous dans la journée, eh bien, on irait dormir en tel ou tel ou tel endroit. Si on était en forme, on ferait une grande journée. Si on était moins en forme aussi, ben, on ferait peut-être une journée plus courte. Donc le fait de ne pas avoir prévu de lieu pour dormir nous permettait beaucoup de liberté dans la journée. On prévoyait aussi très peu les repas. On était avec nos sacoches, on n'avait pas beaucoup de place.
Je crois que j'ai raté les...
Donc, quoi ?
Qu'on ne prévoyait pas les dodos, c'est ça, hein ?
Ah oui, c'est voilà. Ça, oui. Donc voilà, c'est des bivouacs au cours de la route, un peu au hasard parfois, parfois moins au hasard, mais voilà, ça se décidait pas beaucoup à l'avance. Alors là, c'est une histoire intéressante. On avait prévu de dormir à un endroit, mais en fait, c'était une zone protégée. Donc assez vite, les riverains nous ont dit qu'il n'était pas question qu'on plante notre tente dans cette zone-là, qu'on allait avoir des problèmes avec la police locale ou avec le propriétaire des lieux. Donc on est reparti, il était déjà tard, il devait être 19h ce jour-là. Et puis finalement, on a continué notre route, on a demandé une fois, deux fois, ça ne marchait pas, les maisons étaient vides, enfin bon. Et puis il y avait des éoliennes un peu au fond, donc on s'est dit, mais près des éoliennes, il y a toujours un endroit pour pouvoir poser une tente. En général, c'est plat, voilà. Donc on est allé filer vers les éoliennes et on a atterri là très tard le soir, juste avant que la nuit tombe, et on a dîné de nuit du coup.
Et on a très bien dormi, petit message. Dors bien sous les éoliennes, ça.
Voilà.
Et oui, Le fait de rien prévoir aussi, des fois on prévoyait pas, mais quand par exemple on est en Sibérie, c'est facile, on prévoit pas, mais il y a toujours des espaces pour dormir. Dans d'autres pays, c'est pas aussi simple. En Allemagne, par exemple, on l'a vu sur la photo d'avant, c'est tellement dense qu'il y a très peu d'endroits pour se poser. Donc des fois, on atterrit sous les éoliennes. Et au Cambodge, on n'avait pas prévu où dormir. Puis finalement, on a essayé de dormir dans un temple bouddhiste, mais c'était pas prévu comme ça. Il était prévu qu'on allait dormir dans la pièce de la gendarmerie local, puisque les gendarmes du coin nous ont dit « Ah non, mais là, vous dormez pas ici, il faut nous suivre, c'est trop dangereux. » Donc, on a suivi les gendarmes et on a passé la nuit au poste, en fait.
Ça nous est arrivé deux fois au Cambodge. Ouais. Ouais, uniquement au Cambodge.
Et les imprévus prévus, c'est aussi qu'on savait, on savait jamais où on allait acheter à manger. Enfin, il n'y a quand même pas de grosse inquiétude là-dessus. Donc, on achetait au fil de notre périple. Et en fait, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, on trouve à manger partout le long des routes. En Thaïlande et en Russie, là, par exemple, on achetait du poisson séché au bord du lac Baïkal. Et voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de tout anticiper à l'avance, de savoir dans quel resto on peut se poser quand on voyage. On peut aussi partir comme ça. Et tout se trouve spontanément. Et puis il y avait les imprévus, pas prévus. Alors, c'était prévu qu'il y ait des pas prévus aussi. Voilà, il y avait prévu. Et... Bref. Donc dans les imprévus, pas prévus.
Il y en a qui sont sympas. Il y a des imprévus sympas. Notamment des rencontres avec d'autres cyclotouristes qu'on a croisés au bord de la route. Alors là, c'est Pablo, qui est un jeune Allemand, qu'on a rencontré en Grèce. Et après discussion ensemble, on a décidé de faire un bout de route ensemble. Donc on a passé 3-4 jours ensemble à pédaler tous les 6. C'était très sympa parce que du coup, ça permettait aussi de changer un peu la configuration de la famille et d'avoir un grand frère avec nous. Les enfants étaient ravis de pouvoir passer du temps avec Pablo, de jouer avec lui, les filles le coiffaient.
Et puis l'imprévu, pas prévu aussi, c'est le chien sur la photo. Joseph me le rappelle. Il dit « Papa, il y a le chien, t'as eu ?» Et ce chien, il n'était pas prévu non plus. Il nous a suivis dans un village et il n'a pas arrêté de nous suivre après jusqu'à aller se coucher avec nous. Et le lendemain, il nous suivait encore jusqu'à ce qu'il y ait une dame en voiture qui nous double et qui jette des croquettes pour amadouer son chien pour qu'elle revienne avec elle. Donc voilà. Et puis ce qui n'était pas prévu aussi, on n'avait pas prévu de dormir là, évidemment. En fait, là, on a été hébergé par un agriculteur en Grèce. On était près de la frontière turque, donc c'était un Turc qui travaillait en Grèce et qui nous a hébergés sur son exploitation.
Et puis il y a des imprévus pas très agréables. Et là, c'était sur les pistes mongoles, où on s'est retrouvés dans le sable, et là il a fallu pousser. Alors, on a pris notre temps, on a poussé, on a avancé, doucement mais sûrement, et puis voilà, ça a fini par passer.
Quand on a du temps, en fait, les choses se passent quand même beaucoup mieux. Mais... Bon, c'était un imprévu, pas prévu, mais enfin, on se doutait bien qu'en passant dans les chemins où c'était marqué que c'était pas des routes goudronnées, il allait y avoir probablement un peu de risque de ce genre-là. Parfois, l'itinéraire qu'on a tracé ne nous indique pas qu'il y a une voie ferrée qui traverse. Bon, là, elle était quand même pas très très passante, donc on s'est autorisé quelques petites folies.
En Russie, il y en a plein des voies ferrées partout.
Ouais.
Donc, c'est pas la seule qu'on ait traversée. Hein.
On a essayé de traverser aussi une voie ferrée. Ben là, pour le coup, on voulait être plus prudent. Donc, on a pris les équipements qui étaient proposés pour passer. Bon, c'était un truc... c'est à la russe, quoi. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas qui a inventé ce truc-là. Mais on a fait 25 tours comme ça à l'intérieur pour monter petit à petit au-dessus des voies. Puis, on a recommencé de l'autre côté à redescendre. Alors, comme c'était très serré avec nos grands vélos, ça passait pas. Bref, on a passé beaucoup de bon temps là-dedans. La météo aussi, parfois, nous joue des tours. Voilà, quand il se met à neiger, ça, on l'avait pas non plus prévu. Donc, faut s'adapter, ou quand il pleut. Donc, des fois, les journées se terminent un peu comme ça, où on est sous la tente.
Ou se commence comme ça.
Ou commence comme ça. On est sous la tente, il pleut, on se regarde. Pas grand monde qui a envie de bouger. Bon, bah, allez hop. Séance cinéma, on attendra que le temps s'améliore. Et voilà. Et donc, pour accepter tous ces imprévus, en fait, le secret, c'est qu'il faut avoir le temps. Donc l'idée c'était qu'on vivait sans la montre mais qu'on avait le temps nous. Donc on pouvait vraiment accepter quand il pleut on n'a pas un rendez-vous qui est déjà programmé donc c'est pas grave on attend dans la tente. Si quelqu'un nous rencontre au bord de la route et nous dit ah mais c'est super, il faut passer par là, faut venir chez moi, on avait le temps. Donc ça c'est ce qu'on Et quand on a le temps aussi ça nous a permis d'être plus à l'écoute de notre corps. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'on recherchait pendant le voyage, c'était d'avoir du temps pour nous.
C'est ainsi que s'achève la première partie de ce témoignage de cette famille. Antoine, Géraldine et leurs 3 enfants partis faire le tour du monde à vélo. Nous suivrons leur pérégrination lors d'un prochain rendez-vous. C'est la semaine prochaine pour l'inattendu de Dieu.